Bonjour à tous, c'est Jeanne Béran dans De l'art dans les oreilles sur Art District. Aujourd'hui, je suis au cœur du Marais, dans le magnifique hôtel classé monument historique. Il s'agit du musée Cognac G, qui présente jusqu'au 25 juin l'exposition Sérénissime, Venise en fête de Tipolo Aguardi. Alors, je suis en compagnie de Benjamin Couillot, qui est conservateur du patrimoine au musée Cognac G, et qui, j'en suis sûre, va nous livrer tous les secrets de l'exposition. Benjamin Couillot, bonjour, et merci de nous accueillir ici au musée Cognac G. L'exposition qui nous intéresse aujourd'hui est donc consacrée à Venise au XVIIIe siècle, et plus particulièrement aux fêtes de Venise au XVIIIe siècle. Donc c'est vrai qu'on pense tout de suite au carnaval, que nous connaissons notamment à travers l'étoile des artistes qui sont présentés dans le musée, mais en réalité les fêtes à Venise ne se limitaient pas simplement au carnaval, et j'imagine que vous allez nous en parler par la suite. Le titre de l'exposition, finalement, nous donne déjà beaucoup d'indices sur ce qu'on va découvrir dans l'exposition. Pouvez-vous, en fait, nous expliquer un peu ce titre et nous dire ce qui se cache derrière ces mots ?
Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. En effet, c'est une exposition consacrée aux fêtes à Venise au XVIIIe siècle, que nous avons intitulée Sérénissime, Venise en fête de Tiepolo Aguardi. Et ce titre de Sérénissime est une référence évidente au titre dont se parait l'État vénitien, qui était la Sérénissime République. Et donc, ça désigne un mode de gouvernement qui était la République, pas celle que nous entendons actuellement en France, mais qui, en tout cas, voulait répartir les pouvoirs de telle sorte qu'il n'y ait pas de trop grande concentration entre les mains d'individus liés à une même famille ou aux mêmes intérêts. Et également, ce titre de Sérénissime, évidemment, fait également référence à une atmosphère de calme, de bonheur, de plénitude, qui est véhiculée notamment par l'ambiance des fêtes telles qu'elles étaient pratiquées à Venise au XVIIIe siècle. Également, ces noms d'artistes, hein, Tiepolo et Guardi, sont aujourd'hui très liés à la culture vénitienne du XVIIIe siècle, avec d'une part Tiepolo, qui est un grand peintre fresquiste, qui réalise de très nombreux décors, aussi bien religieux que profanes, non seulement à Venise, mais également dans d'autres grandes villes d'Italie et également en Europe, hein, puisque l'artiste va travailler notamment en Allemagne et terminer sa carrière à Madrid, donc on est vraiment dans cet aspect international de la culture vénitienne au siècle des Lumières. Et puis d'autre part, Guardi incarne un autre aspect de cette culture. Alors il faut savoir que Tiepolo et Guardi sont liés, puisque Tiepolo avait épousé une sœur de Guardi, hein, Cecilia Guardi, mais Guardi, lui, va plutôt s'intéresser assez rapidement, c'est un artiste qui produit essentiellement la seconde moitié du 18e, il va vraiment se tourner vers ce qu'on appelle la veduta, qui est un terme italien qui désigne une vue de paysage, qui est plutôt un paysage urbain, qui s'intéresse vraiment à la ville en tant que telle, à la fois comme environnement architectural, comme aussi un cadre très privilégié, très particulier, que celui de Venise, qui est quand même une ville qui est bâtie sur l'eau, avec également un urbanisme aussi très fort, hein, très théâtral, et bien entendu la vie vénitienne, telle qu'on peut la voir au jour le jour ou à l'occasion d'événements particuliers. Donc nous voulions vraiment articuler le propos autour de ces artistes qui ont pu s'emparer chacun à leur manière, avec leur style, leur sujet de prédilection, cet univers festif qui, en effet, a pu se décliner sous de très nombreuses variantes à Venise.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie au musée Cognac G, finalement, de consacrer une exposition à ce sujet ?
Alors, le musée Cognac G, depuis sa fondation en 1929, donc, est un musée de la ville de Paris qui résulte d'un legs, qui résulte du legs de la collection d'Ernest Cognac, qui est le fondateur de la Samaritaine au début de la Troisième République, et qui également était un très grand collectionneur, hein, quelqu'un qui appréciait beaucoup les objets d'art, quelqu'un qui a collectionné notamment des œuvres du 19e siècle, hein, Manet, Corot, etc., mais qui a eu aussi une prédilection très marquée pour l'art du 18e siècle. Et donc Ernest Cognac, à sa mort, a décidé de léguer une partie, puisque une autre partie est restée entre les mains de la famille, en l'occurrence du petit-neveu Gabriel Cognac, qui a d'ailleurs repris la tête de la Samaritaine, et bien il a décidé de léguer une partie de sa collection à la ville de Paris, hein, dans un but philanthropique. C'est quelqu'un qui avait une certaine générosité en dehors de cet univers artistique, et cette collection s'articule très largement autour du 18e siècle. Et le musée Cognac G conserve des tableaux, des sculptures, des objets d'art, etc., de diverses provenances, et notamment un fond, loin d'être négligeable, de peintures vénitiennes du 18e siècle. Nous avons notamment une petite toile, mais très importante, de Tiepolo, Giambattista Tiepolo, donc le grand peintre décorateur, et que nous avons restauré l'année dernière à l'occasion de la préparation de cette exposition, et d'ailleurs l'œuvre est présentée, hein, à la fois dans l'exposition et dans son catalogue. Donc nous voulions vraiment véritablement mettre l'accent sur cette Venise du XVIIIe qui est un siècle très paradoxal. En effet, c'est un siècle qui est vraiment un âge d'or, puisque Venise, après un XVIIe siècle un petit peu plus secondaire, même s'il est très intéressant, voit au XVIIIe de nouveau sa position culturelle dominée, ou du moins avoir une place de choix, dans l'Europe. Et donc Venise, au XVIIIe, développe toute une scène, notamment dans le domaine de la peinture, avec beaucoup d'artistes qui vont voyager dans l'Europe entière. Effectivement, on pense à Tiepolo, mais d'autres artistes, notamment un grand peintre qui est Sebastiano Ricci, qui va voyager à Londres ou à Paris, et également la pasteliste Rosalba Carriera, qui elle aussi va voyager à Paris, mais également dans d'autres grandes cités européennes. Donc on est vraiment avec cet aspect international de la culture vénitienne, et qu'on retrouve également dans le domaine plutôt littéraire, avec quelqu'un comme Casanova, évidemment, hein, qu'on connaît à travers ses péripéties, à travers sa vie, surtout sentimentale, hein, extrêmement tumultueuse, qui lui aussi va vraiment pratiquer, hein, cette pérégrination, mais également l'auteur de théâtre Carlo Goldoni, qui lui va rénover la comédie vénitienne et qui va terminer sa vie à Paris. Donc on est vraiment avec cet aspect très cosmopolite de Venise, et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'exposition, puisque Venise, en même temps, attirait beaucoup d'étrangers. Évidemment, il y a une population locale très importante, mais aussi beaucoup d'Anglais. Il y a vraiment une passion vénitienne des Anglais, beaucoup de Français, également à l'occasion des Russes, des Danois, etc. Donc on est vraiment avec une cité qui a une position culturelle éminente dans la culture occidentale au XVIIIe siècle. Et en même temps, c'est un siècle évident de déclin, puisque Venise, depuis la Renaissance, voit sa position politique, commerciale déclinée à cause de différents facteurs, notamment du fait que l'Empire ottoman a rogné très largement sur son empire, hein, qui était développé dans la partie orientale de la Méditerranée, ces affrontements entre le Grand Turc, comme on disait, et la Sérénissime a donné lieu à plusieurs guerres, extrêmement éprouvantes d'ailleurs pour Venise, évidemment en termes d'affrontements, mais également en termes d'investissements financiers, hein, qui ont été vraiment un gouffre terrible. Et puis d'autre part, tout simplement, il y a de nouveaux rapports de force du point de vue commercial, avec l'émergence évidente du commerce transatlantique, hein, entre d'une part l'Europe et les Amériques, et Venise, qui dominait largement, hein, ce monde méditerranéen pendant le Moyen-Âge, avec véritablement cet échange, hein, entre l'Occident et le Proche-Orient, hein, le monde arabo-islamique, eh bien, et une partie de l'Asie, eh bien, voit ce pôle de commerce mondial se déplacer, et donc Venise finalement obtient une place plus secondaire, et émerge évidemment dans le courant du XVIIIe d'autres grandes puissances telles que la France et l'Angleterre en particulier, beaucoup plus modernes, avec une place prépondérante, hein, dans les relations stratégiques et diplomatiques de l'Europe des Lumières. Donc c'est vraiment assez paradoxal, et ce déclin malgré tout est assez heureux, hein, puisque Venise également est consciente de sa place, et donc se retire, hein, des grands conflits, décide d'ailleurs de ne pas prendre part à certaines guerres, hein, le souhait de maintenir une certaine neutralité. Il y a des dépenses militaires évidemment qui sont plus aussi importantes qu'auparavant, donc il y a vraiment une richesse qui peut être maintenue, et puis finalement c'est le dernier siècle d'une Venise indépendante, hein. Ça c'est vraiment un point aussi que nous exposons beaucoup dans l'exposition, c'est que Venise connaît finalement ces dernières décennies, hein, de ce fameux pouvoir des doges, hein, qui est un pouvoir plus représentatif, hein, le doge a peu de prérogatives, finalement il incarne plutôt l'État, mais on est quand même dans toute une mythologie, dans toute une culture propre à Venise, hein, qui fait partie de ces rares villes de la péninsule italienne qui n'a jamais été conquise, hein, pendant près d'un millénaire, et en 1797, avec l'arrivée des troupes françaises, hein, dans le contexte révolutionnaire, donc, qui sont dirigées par le général Bonaparte, donc en Italie du Nord, eh bien, de façon assez fulgurante, hein, quelques mois, voire quelques semaines, l'Empire, enfin du moins le reste des territoires vénitiens, hein, qui se trouvaient dans ce qu'on appelait la terra ferma, c'est-à-dire la terre ferme, donc la partie vraiment qui appartenait à Venise sur le continent européen, donc une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Vénétie, également la Lombardie et du Frioul, hein, qui correspondent à des grandes régions administratives d'Italie, eh bien tout ce territoire est très rapidement conquis par les Français, et les Vénitiens n'ont d'autre choix finalement que d'être conquis par ces troupes étrangères. Et le 12 mai, donc 1797, c'est une date importante et fatale pour Venise, puisque le dernier doge, hein, qui s'appelait Ludovico Manin, qui était le 120e doge de Venise quand même, eh bien, est obligé d'abdiquer. Hein, vraiment, c'est la fin du pouvoir vénitien indépendant, d'une cité libre, pourrait-on dire, et les troupes de Bonaparte entrent dans Venise. Hein. C'est vraiment un choc, hein, puisque depuis le Moyen-Âge, hein, ni Charlemagne, ni Charles Quint, ni les grandes ni les autres grandes puissances européennes n'avaient réussi à mettre la main sur Venise, qui a été plusieurs fois très lourdement menacée, qui a failli disparaître à quelques reprises, mais finalement c'est vraiment cette date de 1797 qui marque un coup d'arrêt, et à part une brève période de 2-3 ans au milieu du 19e siècle, eh bien Venise restera une cité dominée, d'abord par les Français et ensuite très largement par les Autrichiens, avant d'être intégrée au Royaume d'Italie, donc lorsque l'Italie deviendra un pays tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Et donc revenons un peu sur cette grande période de Venise que vous présentez dans l'exposition. À travers le témoignage des artistes, plusieurs thématiques sont donc abordées. Et on montre notamment les fêtes privées du peuple et de l'aristocratie qui se tiennent en marge des cérémonies et des manifestations publiques. Donc la question qu'on se pose, c'est comment se déroulaient ces fêtes et qu'est-ce qu'il s'est passé finalement? Elles ont une réputation d'être assez sulfureuses. Et quel tableau qui est présenté ici pourrait illustrer au mieux finalement ces grandes fêtes populaires?
Alors en effet, dans une première section, nous allons montrer comment la population vénitienne, qu'il s'agisse de l'élite ou du peuple, finalement s'amuse, va se distraire plutôt dans des lieux intimes, généralement privés. Et donc, nous avons beaucoup mis l'accent sur l'art de Pietro Longhi, qui est un artiste extrêmement attachant, qui va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle la scène de genre, c'est-à-dire des scènes de la vie quotidienne, qui ne rendent pas des faits extraordinaires de grands héros ou la culture religieuse. Et donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup s'intéresser à la vie sociale à Venise, avec beaucoup d'intérêt pour les détails de l'intérieur, du costume, etc. Et avec un aspect très psychologique, finalement, dans les jeux de regard, également dans la gestuelle, qui finalement a pu faire comparer son art à celui d'un contemporain qu'on connaît évidemment beaucoup mieux en France, qui est Chardin. Et donc, nous avons montré notamment un des premiers tableaux de genre de Longhi, qui remonte au début des années 1740, qui est le concert, et qui se déroule dans ce qu'on appelle un casino. Alors, c'est pas comme aujourd'hui notre grande salle de jeu, c'est un terme italien qui définit une petite maison, donc une sorte de pied-à-terre, en tout cas une petite retraite, où se déroulaient différents types d'activités, évidemment plus ou moins bien regardées par la morale. Et dans ce tableau, nous avons à la fois donc un concert, proprement dit, donc avec des personnages qui jouent du violon, mais également, et c'est assez cocasse, des religieux qui jouent à des jeux de cartes. Il faut savoir que la morale chrétienne à l'époque condamnait les jeux d'argent et de hasard. Donc on est vraiment dans une vision sans concession, assez réaliste finalement, de cette vie vénitienne des élites. Mais également, il y a des allusions dans les tableaux de Longhi, notamment dans les tableaux qui représentent plutôt les couches plus modestes de la société, à la prostitution. Alors, la prostitution était omniprésente à Venise. Il y a une image un peu romantique de la courtisane vénitienne, qui est une femme assez riche, avec une grande puissance, qui est vraiment liée à des hommes avec beaucoup de pouvoir dans le monde vénitien, notamment des personnalités politiques, culturelles, etc. Mais il y a également une prostitution plus populaire, pourrait-on dire, et c'est ce qu'on montre notamment avec une scène de taverne extrêmement explicite, parce qu'il y a une jeune femme avec un décolleté extrêmement ouvert et un homme qui l'enlace sans aucun équivoque. Donc on est avec également ces allusions à ces relations tarifées, comme on dit, en tout cas à cette sexualité évidemment de métier. Et donc Venise a fait couler beaucoup d'encre concernant sa prostitution, notamment Voltaire en parle beaucoup, et ça fait partie, entre guillemets, des distractions, si je puis me permettre, en tout cas, de ce que recherchent également les touristes à Venise. On peut le dire, une forme de tourisme sexuel, évidemment, qui n'est pas forcément bien vu moralement, mais qui participe d'un engouement des touristes étrangers à Venise. Donc il y a une sorte d'image qui se cristallise autour de cela. Il y a également donc, un dessin de Gian Domenico Tiepolo. Alors, on connaît le père, Gian Battista, mais il a eu plusieurs fils. Et nous présentons des œuvres de deux d'entre eux, dont le plus talentueux, si l'on peut dire, qui est Gian Domenico Tiepolo. Et ce Gian Domenico s'est beaucoup intéressé aux scènes de genre, et nous montrant ce qu'on appelle la malvasia, qui est un terme qui désigne à la fois un vin originaire de Grèce, où Venise avait des comptoirs, donc pouvait importer cette boisson, et également le débit de boisson où était consommé ce vin. Et donc, nous avons une scène, là aussi très cocasse et très réaliste, où nous voyons un patron d'établissement en train de renvoyer un client, visiblement sous l'emprise de la boisson, qui est en train d'esquisser un pas de danse, en train de tenir une cruche à la main, donc c'est un dessin assez humoristique, et qui en même temps rend compte des débordements, en effet liés à l'abus de boisson à Venise au XVIIIe siècle.
Mais Venise, au XVIIIe siècle, c'est également un centre artistique de premier plan, notamment avec le théâtre et l'opéra. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette effervescence artistique incroyable qui est présentée notamment dans cette exposition ?
Alors oui, si Venise est une ville qui a un urbanisme très contraint, on le voit encore aujourd'hui, un bâtiment avec une certaine densité d'occupation, hein, qui sont évidemment assez ramassés les uns sur les autres, c'est une ville qui a construit un très grand nombre de théâtres, hein, véritablement une des villes où l'on comptait le plus grand nombre de théâtres en Europe. Hein. C'est dire vraiment l'importance des arts de la scène à Venise au XVIIIe, et à côté de ces salles en dur, entre guillemets, il y avait beaucoup de représentations théâtrales également en extérieur, donc on est vraiment avec une scène éphémère, telle qu'on la retrouve dans d'autres grandes villes d'Europe. Et notamment, au moment du carnaval, on dressait des tréteaux et des scènes donc pour créer véritablement des mises en scène avec tout ce goût pour ce qu'on appelle la commedia dell'arte, qui évidemment est plutôt un art de la scène comique, avec beaucoup d'exagération, de personnages plutôt caricaturaux, notamment de Polichinelle, et qui était très apprécié donc à ce moment-là. Hein. Donc on a un dessin de Canaletto qui représente en particulier une présentation de la Commedia dell'arte au moment du carnaval sur la place Sama, mais également il y a un art un peu plus noble, entre guillemets, en tout cas qui est plus lié à une élite sociale, qui se déroule dans des théâtres en dur, et avec d'une part donc plutôt l'univers du théâtre, et notamment quelqu'un comme Carlo Goldoni, et l'art lyrique, hein, véritablement l'opéra. Et c'est vrai que ce personnage de Goldoni est très important, puisque Goldoni va laisser libre cours à une certaine spontanéité dans les rôles, en même temps va jouer vraiment sur un travail d'écriture, c'est quelqu'un qui va renouveler le théâtre vénitien, et surtout s'intéresser beaucoup à la vie sociale de son époque, hein, relation entre les différentes classes, la bourgeoisie, les serviteurs, etc., l'aristocratie, également les conflits d'intérêts et également, bien entendu, les querelles amoureuses. Et on a d'ailleurs pu comparer son théâtre à celui de Marivaux, hein, pour reprendre l'exemple d'un contemporain français. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va donner une certaine modernité, et d'ailleurs, ses pièces sont encore jouées avec beaucoup de verve et de fraîcheur aujourd'hui, et finalement, elles parlent de grands éléments de la vie publique, hein, qu'on retrouve encore aujourd'hui au niveau social, politique, etc. Et l'œuvre de Goldoni va vraiment faire date, hein, et encore aujourd'hui considérée comme très importante dans la culture vénitienne, mais plus largement dans la culture littéraire européenne, mais il va se heurter quand même à des résistances, ce qui va l'amener à finalement quitter sa ville pour se rendre à Paris. Mais c'est quelqu'un qui a eu vraiment tout un mécénat très important. Il faut savoir que les théâtres à l'époque appartenaient à des grandes familles à Venise, donc au XVIIIe siècle, et finalement Goldoni va se mettre au service de ces différentes familles et donc changer d'établissement au gré de sa carrière. Et puis il y a évidemment l'art lyrique, hein, qui est très important à Venise, le goût pour l'opéra là qui était évident en Europe avec ce goût italien, même s'il y a des résistances nationales qui sont très fortes en Angleterre, en France, en Allemagne, mais l'opéra italien reste malgré tout extrêmement dominant, et il y a une personnalité qui est très forte et dont nous présentons un portrait, qui est celle de Farinelli, hein, ce castrat d'origine napolitaine. Alors certes il n'est pas vénitien, mais il a vraiment une carrière lui aussi complètement international. Il est célèbre et adulé dans l'Europe entière, et on dit même que quand il passe à Venise, les Turcs pourraient débarquer, que rien ne se passerait, hein, tellement le public est omnibulé par l'art de Farinelli. Et donc il vient à plusieurs éditions du carnaval, puisque la saison théâtrale se concentre surtout donc en début d'année, hein, pendant la période carnavalesque, et Farinelli est vraiment attendu avec beaucoup de ferveur à ce moment-là à Venise.
Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que l'exposition parle aussi de la relation qui est entretenue entre le pouvoir et les grandes fêtes, et finalement comment le pouvoir politique, donc le doge et religieux, ont pu se servir de ces grands événements à Venise.
Alors il faut savoir qu'à Venise, il y a toujours finalement un certain mélange, si je puis dire, en tout cas une certaine fusion entre d'une part le pouvoir laïque, si je puis dire, en tout cas le pouvoir profane politique, et d'une part la puissance religieuse. C'est une forme de mythologie qui est entretenue depuis la création, en tout cas la création mythique de Venise, puisqu'on dit que la ville aurait été fondée le 25 mars 421, donc ça correspond dans le calendrier chrétien au jour de l'Annonciation, et donc la ville de Venise se place directement sous la protection de la Vierge, mais tout, plus simplement sous protection divine. Donc il y a une forme finalement de protection extraordinaire qui est accordée à Venise, hein. Donc Venise a toujours entretenu ce mythe, hein, d'une cité favorisée, et tout au long de son histoire donc a finalement forgé un certain nombre de grandes fêtes. L'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est celle qu'on appelle la fête de la Senza, qui correspond donc dans le calendrier chrétien au jour de l'Ascension, mais qui à Venise a une double résonance. Effectivement, c'est une fête qui est liée d'une part donc à la fin du premier millénaire à une campagne victorieuse navale contre des pirates, hein, le long de la côte adriatique, hein, donc vers la Croatie actuelle, où les Vénitiens ont pu montrer leur hégémonie sur les mers, et ça c'est très important, le rapport de Venise avec le monde aquatique, à la fois d'un point de vue militaire, mais également commercial, hein, c'est ce qui a permis finalement d'asseoir la puissance de Venise pendant une grande partie du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et puis d'autre part, au XIIe siècle, Venise, donc toujours liée à ce moment de l'ascension, va régler un très grave conflit entre deux des plus grandes puissances de l'époque, qui était d'une part le pape, évidemment, qui incarne le pouvoir chrétien, hein, de l'Église catholique, et d'autre part le Saint-Empire romain germanique, qui est l'héritier donc de l'Empire romain et qui incarne évidemment un pouvoir profane extrêmement fort. Et donc il y a eu un conflit d'intérêts entre ces deux puissances, et Venise avait joué le rôle d'arbitre, hein, donc les deux effectivement les deux chefs d'État, en tout cas les deux grands personnages, avaient réussi à régler leurs différends grâce à la transition vénitienne. Donc Venise en a évidemment tiré un grand avantage, se montrer véritablement comme une cité incontournable dans les rapports de force entre États au cours du Moyen-Âge, et le pape d'ailleurs, pour remercier Venise, lui a confié un anneau d'or. Donc c'est vraiment un geste symbolique, et il se trouve qu'au moment de la Censa, et un dessin de Guardi le montre dans l'exposition, eh bien il y a tout un cérémoniel qui lie Venise à l'eau. Effectivement, le doge embarque du côté de la jetée, du quai pardon, qui borde la place Saint-Marc. Il part donc sur une grande embarcation qu'on appelle le Bucentaure, qui était un énorme bateau avec beaucoup de décors en bois doré sculpté, beaucoup d'allégories du pouvoir vénitien, assez compliqué à manœuvrer, hein, c'est vraiment une barque d'apparat, donc ça faisait très peu de sorties, et le doge donc embarquait avec différents représentants du pouvoir à la fois religieux et politique, et il allait donc au niveau de l'île du Lido, au bord de la lagune, finalement à la frontière entre la lagune vraiment de Venise et la mer Adriatique. Et il se mettait donc à l'arrière du bateau, à la poupe, et il jetait donc un anneau d'or en prononçant les mots qui disaient à peu près « Mère, par ce signe, nous t'épousons ». Donc c'est vraiment un rapport presque charnel qu'entretient la ville avec la mère, hein, évidemment, qui joue un rôle très important dans l'ascension et le maintien du pouvoir vénitien. Donc c'est vraiment une fête très forte, et évidemment aussi toujours lié au doge, tout simplement, et là nous en présentons plusieurs épisodes, ce qui est lié au fait de l'avènement d'un doge. Il faut savoir que le doge, finalement, a un pouvoir surtout représentatif, un petit peu comme aujourd'hui la reine d'Angleterre, par exemple, évidemment, qui délègue le pouvoir à différentes institutions élues selon différents types de scrutins. Eh bien, le doge, c'est un peu la même chose. Hein. Finalement, il a un rôle de représentant. Il y a tout un processus électoral extrêmement compliqué à Venise pour élire le doge, tout simplement pour se prémunir, finalement, d'une prise de pouvoir, hein, finalement, qui est une forme de népotisme, hein, entre les mains d'une même famille. Il y a déjà eu des précédents de tentatives de coup d'État à Venise, hein, qui sont soldés de façon très violente, hein, c'est-à-dire que les coupables ont été condamnés à mort et exécutés. Donc il y a vraiment, à Venise, on ne transige pas avec l'exercice du pouvoir, avec le vote. Et donc quand le doge est élu, il est acclamé. Et donc on a un tableau de Guardi, là encore, qui montre le doge qui arrive dans la basilique Saint-Marc, hein, évidemment, qui communique directement avec le palais des doges. Donc là aussi, point de vue même spatial, hein, de l'organisation de la ville, il y a un rapport très fort, hein, très physique presque, entre le siège du pouvoir vraiment profane, politique, et également un haut lieu de la culture spirituelle vénitienne. Il faut savoir qu'à l'époque, la basilique Saint-Marc n'est pas la cathédrale de Venise, mais c'est un haut lieu du pouvoir, et évidemment, c'est un lieu aussi symbolique, puisqu'il est censé conserver les reliques d'un des évangélistes. Et donc, dans la basilique, il est acclamé par la population, et ensuite il sort sur la place Saint-Marc, où il est donc porté dans une sorte de petit puits, une sorte de rituel qui rappelle un petit peu celui, finalement, de triomphe des empereurs romains, et là, il jette des pièces d'or et d'argent à la population, qui évidemment est très avide de cet argent, mais qui montre aussi, dans une vision évidemment qui est très paternaliste, une forme finalement de rapport très bénéfique entre le chef de l'État et évidemment la population. Donc il y a vraiment une vision aussi qui est très liée évidemment à l'exercice du pouvoir tel qu'on l'entend au siècle des Lumières entre les dirigeants et la population.
Alors bien sûr, comment ne pas parler dans cette exposition du Carnaval de Venise, cette fête traditionnelle remontant au Moyen-Âge, qui est connue pour ses superbes masques et ses costumes. Mais alors, au XVIIIe siècle, le Carnaval de Venise, finalement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui explique son importance et son succès ?
Alors, en effet, le Carnaval a toujours été très lié à Venise, encore aujourd'hui, hein, ça fait partie vraiment des grandes manifestations de la ville, avec un aspect très touristique, mais qui remonte déjà au XVIe siècle, puisque il y a vraiment un engouement européen à la fin de la Renaissance pour le Carnaval. Alors, le Carnaval, certes, n'est pas lié à Venise proprement dit, hein, il remonte en effet au Moyen-Âge, mais petit à petit, il y a vraiment une forme de cristallisation de Venise comme fête des plaisirs au moment du carnaval. Et donc, au XVIIIe, il y a non seulement, je dirais, ce goût pour les masques, qui est évident, qui témoigne dans l'espace public de ce moment du carnaval, même si le port des masques va au-delà de la période vraiment consacrée du carnaval, là aussi qui est liée plutôt, je dirais, au calendrier chrétien, c'est-à-dire au tout début de l'année civile jusque à la période qui précède le carême, donc évidemment qui était un moment de recueillement pour le chrétien, évidemment qui est lié à la période qui précède la mort du Christ. Et au contraire, le carnaval, c'est un moment de défoulement, finalement, de relâchement, où également, d'un point de vue social, eh bien, une forme d'inversion des normes. Effectivement, on est un peu en dehors des cadres normalement acceptés, mais c'est un moment qui est nécessaire pour relâcher cette pression, hein, pour éviter évidemment qu'il y ait des tensions qui finissent par éclater dans le courant de l'année. Donc c'est un moment très important. Et du point de vue international, il y a beaucoup d'ailleurs de dignitaires, hein, de princes, d'ambassadeurs, etc., qui viennent à Venise exprès au moment du carnaval pour profiter de toutes ces distractions. Alors il faut savoir que au moment du carnaval, en dehors des processions publiques, évidemment, costumées, masquées, il y a aussi toute une saison culturelle très forte, notamment liée donc aux arts de la scène, avec le théâtre, l'opéra, mais également, il y a toute une série de distractions extrêmement diverses, en particulier sur la place publique. Il faut savoir que au niveau de la place Saint-Marc, et même des abords, hein, ce grand quai, hein, qui longe le palais des Doges, qu'on appelle la Riva degli Schiavoni, il y a toute une sorte de fêtes foraines, pourrait-on dire, toute une série d'estrades avec des divertissements très très variés, hein. Alors parfois certains qui sont un petit peu particuliers. Nous en présentons quelques-uns. Nous avons notamment démonstration d'animaux exotiques avec un tableau de Pietro Longhi qui représente donc un lion, hein, présenté sur une estrade. Alors évidemment qui est aussi un clin d'œil au pouvoir vénitien, hein, la République de Saint-Marc, là aussi cet évangéliste qui est représenté par un lion. Et on connaît d'autres tableaux de Longhi qui présentent des éléphants, des rhinocéros, etc. Donc il y avait vraiment aussi ce goût pour l'étrange, hein, l'ailleurs, la rareté dans le cadre du carnaval. Et puis également, pourrait-on dire, des pratiques pseudo-médicales, là aussi, qui relèvent de choses assez dangereuses, mais qui étaient vues comme des spectacles à part entière à l'époque, avec d'une part donc ce qu'on appelle le charlatan, c'est le tableau qui fait l'affiche de l'exposition, encore une fois Pietro Longhi, hein, qui l'a présenté, où vous aviez des bonimenteurs qui présentaient des produits sous forme de fioles, généralement, censés guérir de tel ou tel mot. Donc il y a vraiment là aussi toute une fascination autour de ce personnage assez bravache, hein, qui crie finalement les mérites de leurs produits. Et à côté de ça, il y avait également les arracheurs de dents, c'est-à-dire des pseudo-dentistes qui donc arrachaient en public des dents, et avec là aussi toute une fascination de la part du public. On a quelques œuvres qui leur présentent, avec souvent un orchestre, hein, qui accompagnait finalement l'acte entre guillemets chirurgical, parce qu'il y avait des cris, évidemment, c'était quand même très douloureux, il n'y avait pas d'anesthésie. Et puis on a des représentations assez cocasses, puisqu'on voit souvent le personnage entre guillemets opéré qui est sur le bord de l'estrade avec donc avec du sang qui coule de sa bouche, hein. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose qui peut être assez répugnant, évidemment assez dangereux, mais ça fait vraiment partie de l'ambiance du carnaval. On a plusieurs tableaux qui attestent de cette pratique. Et puis également, d'un point de vue plus intimiste, un peu plus discret et peut-être plus élitiste, ce qu'on appelle le Ridotto. Alors le Ridotto, c'est une salle de jeu qui correspond à notre casino actuel, qui avait été ouvert en 1638 par les autorités vénitiennes, hein, qui pendant très longtemps, là aussi sous la pression de la morale chrétienne, avait finalement interdit très largement ces jeux d'argent et de hasard qui étaient vus en effet comme immoraux. Et donc la République de Venise, hein, s'est rendu compte qu'effectivement il fallait mieux lâcher un peu de lest plutôt que d'essayer finalement d'interdire ce qui était fait illégalement. Et donc elle a permis l'ouverture d'une série de salles, hein, à l'étage noble du Palazzo Dandolo, donc appartenait à un aristocrate pas très loin d'ailleurs de la place Saint-Marc, l'ouverture d'une série de salles qui permettent effectivement de pouvoir se livrer à différents jeux d'argent et de hasard, donc des jeux de cartes en particulier, également des jeux qui rappellent un peu notre roulette, etc. Donc on est vraiment, hein, dans la typologie du casino qui était assez malgré tout surveillé, hein, c'est-à-dire que il fallait venir masquer. Il y avait également une période d'ouverture qui était surtout restreinte au moment du carnaval, et il y a beaucoup de personnes qui viennent donc au casino, à la fois des Vénitiens, des étrangers, et c'est également un moyen pour Venise d'avoir un rôle social, puisque c'est d'ailleurs le tableau de Pietro Longhi le montre bien dans l'exposition. Il permettait d'employer donc des nobles, des argentés qu'on appelait les Barnabotti, puisqu'ils ils habitaient à côté du quartier de San Barnaba, donc l'église dédiée à Saint Barnabé à Venise, et c'était des nobles sans argent. Ils avaient un titre, mais ils n'avaient pas de fortune, et donc, pour éviter qu'ils ne tombent dans l'indigence, eh bien, la République les employait comme croupiers dans le ridotto. Donc il y a vraiment aussi un rôle dans la régulation sociale, du moins pour éviter effectivement des situations un peu dramatiques pour l'aristocratie vénitienne. Et donc c'est une salle qui a eu beaucoup de succès et qui en même temps va attirer beaucoup de rumeurs, etc. On dit qu'il y a des complots qui surdissent, en tout cas on parle un petit peu de façon dissimulée. Il y a évidemment des fortunes qui se font et qui se défont. Et puis des personnages un petit peu douteux, sulfureux même, qui fréquentent les ridotto, des usuriers, évidemment des gens qui vont prêter de l'argent à des taux d'intérêt exorbitants. Donc là aussi on est avec des pratiques financières évidemment assez limites. Et puis d'autre part des prostituées qui viennent, qui tiennent d'ailleurs une quenouille, hein. C'est vraiment un accessoire qui permet de les reconnaître et qu'on voit dans certaines œuvres, notamment de Guardi. Donc c'est vraiment un lieu qui aura une réputation comme ça, à la fois fascinante et un peu interdite. Et d'ailleurs dans les années 1770, il y a une réaction, hein, au sens propre du terme, morale, qui va pousser à la fermeture du ridotto. Hein, donc vraiment ça va durer un peu plus d'un siècle. C'est un lieu qui va beaucoup attirer, beaucoup de fantasmes également. Et d'ailleurs Casanova va déplorer cette fermeture. Fermeture finalement qui sera suivie d'assez peu d'effets, puisqu'on sait que très rapidement, eh bien, des dizaines et des dizaines de salles de jeux illégales vont ouvrir un peu partout à Venise dans la clandestinité. Mais il faut attendre le XXe siècle, hein, pour que s'ouvrent de nouveaux casinos à Venise. Hein. Donc c'est vraiment un lieu, hein, qui pendant quelques temps a pu permettre évidemment de contribuer à cette ambiance de ville des plaisirs telle que l'entendait la population, mais également les étrangers qui venaient à Venise.
Et au cours de l'exposition, on peut aussi admirer des costumes vénitiens que vous présentez, mais il ne s'agit pas en fait de costumes d'origine, mais ils ont été reconstitués par la fabrique de la Goutte d'Or. Pouvez-vous nous parler un peu à la fois du costume vénitien typique et en même temps du travail qui a été fait avec la fabrique de la Goutte d'Or par rapport à la reconstitution de ces costumes ?
C'est en effet une collaboration que nous avons eue avec cette association donc, qui travaille dans le nord de Paris, qui s'intéresse évidemment beaucoup au monde textile. Et comme vous voyez, donc, le résultat est absolument époustouflant, hein, vraiment un travail extrêmement fin, à la fois dans l'exécution même, mais également dans le souci des détails. Et c'est un choix que nous avons opéré, évidemment dans le biais d'une collaboration, dans le rôle aussi qu'a le musée de travailler en dehors de l'institution, mais également pour des raisons plus pratiques, dans la mesure où nous conservons très très peu d'éléments de costumes vénitiens, en tout cas liés au carnaval, au XVIIIe siècle. En effet, la plupart des pièces sont extrêmement usées et fragmentaires, elles ne peuvent pas être présentées au public dans des conditions décentes, je dirais, elles ne peuvent pas d'ailleurs être déplacées pour des questions de conservation, et donc nous avons fait le choix de la reconstitution, donc avec ce costume masculin et féminin, donc avec à chaque fois cette richesse des tissus, et également des motifs floraux hein, qu'on peut voir sur ces costumes, et évidemment la panoplie vraiment liée au carnaval, qu'on retrouve indistinctement d'ailleurs sur le costume masculin et féminin, qui fait écho d'ailleurs au tableau de Pietro Longhi et de Gian Domenico Tiepolo, qui se trouve à la fin de l'exposition, donc sur le carnaval, et qui est une panoplie qu'on appelle la baouta. Et donc elle comprend trois grands éléments, si je puis dire. Il y a d'abord le tricorne, donc ce fameux chapeau de forme triangulaire. Il y a également donc un masque, qui est souvent un grand masque blanc, hein, avec les arêtes du nez, hein, qui sont réduites à une forme de forme schématique, qui est appelée la larva. Il peut également donc avoir d'autres types de masques éventuellement, mais c'est vrai que c'est plutôt la larva qu'on retrouve. Et puis également ce grand capuchon noir, hein, qui enserre la tête et qui descend généralement jusqu'à mi-corps, jusqu'au torse, qu'on appelle également la baouta. Donc la baouta peut désigner tout ou partie de ce costume, mais il y a également d'autres types de masques, de costumes qu'on retrouve. Également ces masques noirs, hein, qui occultent toute la forme du visage, hein, donc de forme ronde, et qui tiennent à l'aide d'un tenon qui était enfoncé dans la bouche, donc évidemment qui empêchait à son porteur de parler, et qu'on appelle la moretta, et qu'on retrouve beaucoup là aussi chez Longhi, plutôt utilisé par les femmes.
Merci beaucoup Benjamin Couillot d'avoir répondu à nos questions sur cette belle exposition. Donc l'exposition Sérénissime, Venise en fête de Tiepolo à Guardi, se tient au musée Cognac-G, ouvert de 10h à 18h, sauf le lundi, jusqu'au 25 juin.